Le retour du maître. Chapitre 20. Dernier dimanche après la Pentecôte. Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec les anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Matthieu, chapitre 16, verset 27. Un des malentendus qui opposèrent si tragiquement à notre Seigneur les éléments de sa nation les plus fidèles à la loi mosaïque fut la persuasion de ces derniers qu'en vertu de la promesse faite par Dieu à Abraham, le royaume messianique leur appartiendrait de droit. Qu'avaient-ils besoin de se convertir comme s'ils eussent été des pécheurs? Jésus finira par leur répondre que d'autres prendront dans le royaume la place qui leur était réservée, tandis qu'eux-mêmes seront jetés dehors et leurs portes de l'Église se refermeraient sur eux. Lorsqu'au jour de son avènement, le Seigneur ouvrira les portes de l'Église éternelle, il ne nous suffira pas non plus d'y être admis, d'arguer du droit que le baptême nous a conféré à la citoyenneté du ciel. Le Fils de l'homme, quand il viendra dans la gloire du Père, escorté de ses anges, rendra à chacun selon ses œuvres. Notre titre d'enfant de Dieu ne nous sauvera pas si nous ne nous sommes pas comportés comme des enfants de Dieu. Et cette fois, la méprise sera sans remède. C'est pourquoi, au terme de sa prédication, le Sauveur a tenu à préciser la sévérité de ses exigences et à nous indiquer le moyen d'y satisfaire. La péricope évangélique de ce dimanche, nous l'avons dit, ne nous donne pas la fin du discours de Jésus qui, après avoir déclaré que le Père est seul à connaître le jour du jugement, insiste ensuite sur sa soudaineté. Le monde ne l'attendra pas. Ce sera comme au temps de Noé. Les gens vivaient dans l'insouciance, ils mangeaient et buvaient, prenaient femme ou mari. Ils ne se rendirent compte de rien jusqu'à ce que vint le déluge qui les emporta tous. Ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui seront en train de moudre à la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Matthieu, chapitre 24, verset 40. Pas plus ici que dans les paraboles qui suivent, notre Seigneur n'a voulu insinuer que la moitié ou les deux tiers des hommes seulement seront sauvés. Il s'est au contraire refusé absolument à nous renseigner sur le nombre des élus. Luc, chapitre 13, verset 23. Dans un style intentionnellement apocalyptique, il nous fait entendre que des hommes dont la conduite paraît se ressembler seront l'objet d'une sanction différente, car il rendra à chacun selon ses œuvres. Tous ceux qui se disent ou que l'on dit chrétiens ne seront pas nécessairement admis dans le cortège triomphal du Christ. L'un sera pris, l'autre laissé. L'un sera sauvé, l'autre perdu. Ce n'est pas à nous de donner à Dieu des leçons de justice. En protestant contre la disproportion qui existe entre le péché et son châtiment éternel, y a-t-il une commune mesure entre notre vertu et le ciel? Nous sommes sur un autre plan que celui de la justice. Nous sommes devant la balance de l'amour. Celui qui aime sera pris. Celui qui n'aime pas sera laissé. Encore moins donnerions-nous des conseils de miséricorde au Père très aimant, qui, au sortir de notre épreuve terrestre, permet aux pécheurs repentants de se purifier. Quant aux révoltés qui s'obstinent à refuser l'amour prêt à lui pardonner, il se juge et se condamne lui-même. Mais celui qui sera laissé ne pourra plus être pris. On ne meurt qu'une fois, disent pour se rassurer les gens que la mort effraie. C'est bien ce qu'il y a de grave. Il faut réussir du premier coup, et pour être certain de réussir sa mort, il faut bien vivre. Je vous le dis, lit-on dans Saint Luc en cette nuit-là, le jour lumineux pour les élus n'est que ténèbres pour les réprouvés. Deux hommes seront à table, allongés sur le même divan. L'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes seront à moudre ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. Chapitre 17, verset 34. Non seulement leurs occupations sont les mêmes, mais elles s'en acquittent ensemble. Rien apparemment ne les différencie. Et les voici brusquement séparées. Le Seigneur ne juge pas sur les dehors, car il sait, lui, ce qu'il y a au fond de l'homme. Jean chapitre 2, verset 25. Tel parvient à donner le change à son entourage. Tel en arrive à s'abuser sur son propre compte. Les apparences et les illusions s'évanouissent sous le regard de celui qui sonde les reins et les cœurs. L'un paraissait chrétien, cependant il est laissé. L'autre l'était réellement, peut-être sans qu'il y parût, et il sera pris. Derrière la matérialité de nos actes, le Seigneur voit l'intention secrète qui nous a guidés, les pensions intimes et les désirs profonds qui ont imprimé à nos actions leur véritable qualité morale. Les uns multipliaient aumônes, prières et jeûnes pour s'attirer les louanges des hommes, et ils ont été laissés. La veuve avait mis dans le tronc les deux derniers centimes de sa pauvre bourse. Le publicain se frappait la poitrine dans un angle du temple. Le mendiant Lazare ne mangeait pas tous les jours à sa faim, mais ceux-là ont été pris. Deux hommes travaillent chacun dans son champ. Tout en poussant la charrue, l'un remercie Dieu et se réjouit de pouvoir donner du pain à toute sa maisonnée et de venir en aide à un voisin malade. L'autre lorgne le lopin de terre contiguë à son fond. Son voisin, poursuivi par des créanciers, l'a sollicité pour un prêt. Pas si bête. Au jour de la vente forcée, il fera la bonne affaire et agrandira son domaine. Et tous les deux aiguillonnent leurs bœufs et tracent leur sillon bien droit. Mais l'un sera pris et l'autre sera laissé. Deux femmes tournent la meule et passent la main dans la farine pour la débarrasser de quelques débris d'écorce. L'une a pleuré car elle avait été offensée, mais dans son cœur elle a déjà pardonné au coupable. L'autre a lissé ses cheveux et pris son plus beau voile car elle espère voir celui qu'elle devrait y conduire. Et toutes les deux tournent la meule au rythme de la même chanson, mais l'une sera prise et l'autre sera laissée. Serais-je pris? Serais-je laissé? Dans l'incertitude, me raccrochais au fait que ma conscience ne me reproche rien. Saint Paul, avec plus de raison que moi, était capable de se rendre ce témoignage, mais il ajoutait « Je n'en suis pas justifié pour autant, car mon juge, c'est le Seigneur. » Or Jésus, dans les dernières heures de son enseignement public, parle exclusivement des conditions dans lesquelles ses disciples devront se trouver au jour de la parousie. Car de tous ceux que le Père lui a donnés, il voudrait n'en perdre aucun. Vous n'avez rien fait de mal. Il n'y a pas là de quoi rassurer un chrétien. Avez-vous fait tout le bien que Dieu attendait de vous? Considérez les mois des serviteurs de la parole lorsqu'ils apprennent que le Maître est de retour. Ce Maître était parti depuis très longtemps. Il n'avait pas donné signe de vie. Que lui était-il arrivé? Reviendrait-il jamais? Il est survenu à l'improviste et tous ont à lui rendre compte de la façon dont ils ont géré ses biens. Il n'avait pas confié à tous une somme égale. Il avait dosé les responsabilités d'après la capacité de chacun. Aussi les serviteurs ne sont-ils pas récompensés d'après le gain qu'ils ont réalisé, mais d'après leur travail. L'un lui présente 10 talents, l'autre 4, peu importe. Ils ont tous les deux fait valoir de leur mieux les dons qu'ils avaient reçus. Leur sort est le même. Ils entreront dans le joyeux cortège du Maître. Ils auront part à l'éternelle béatitude du royaume. Mais le serviteur qui court retirer l'argent de son maître de la cachette où il l'avait enfoui, afin d'être sûr de le lui rendre intégralement, ce paresseux qui, n'ayant rien fait de mal, n'a rien fait de bon, ce poltron qui a reculé devant les risques, cet égoïste qui a refusé de servir, quand moi, je ne suis venu parmi vous que pour servir, ce serviteur inutile pleurera et grincera des dents dans les ténèbres en voyant les autres se diriger vers les parvis illuminés de la Jérusalem céleste. Pourtant, cet homme n'avait commis aucune malversation. Il n'avait pas fait un mauvais usage de son talent. Sa faute fut de n'en avoir rien fait. Sa condamnation tient en ces deux mots, serviteur inutile. Un serviteur qui ne sert pas n'est plus un serviteur. Un chrétien qui ne christianise pas n'est plus un chrétien. À quoi bon les dons naturels que Dieu lui a départis ? À quoi bon les grâces qu'il tenait de sa filiation adoptive s'il ne les a pas employées à étendre le règne de Dieu en lui et autour de lui ? Il devait, par des actes vertueux, glorifier le Père des cieux et par ses exemples montrer aux hommes la vérité et la beauté de l'Évangile. Il n'a pas fait valoir son christianisme. Il n'a pas fait fructifier ses communions. Il a mis sa lampe sous le boisseau. Il a caché son trésor. Parce qu'il ne s'est pas soucié du salut des autres, il a compromis son propre salut. Cependant, Seigneur, j'ai cru en vous. Je n'ai point abandonné votre Église. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». On doit accomplir la volonté de mon Père des cieux. Écoutez aussi l'aventure de plusieurs jeunes filles qui composaient le service d'honneur au mariage d'une de leurs amies. La chose paraîtra invraisemblable, mais le fiancé ne se décidait pas à paraître. Il fait nuit noire, tous les gens de la noce s'assoupissent et s'endorment. Soudain, à minuit, un cri retentit. « Voici l'époux qui arrive, voici le Christ qui revient, portez-vous à sa rencontre. » Les demoiselles d'honneur se réveillent et s'apprêtent. Apprêtent les lampes qui éclaireront le cortège nuptial. Cinq d'entre elles avaient emporté dans un flacon la provision d'huile nécessaire pour alimenter la flamme de leur lampe. Les cinq autres avaient négligé cette précaution. Étourderie fatale. L'époux qui s'est fait attendre n'attend pas. Il n'emmène avec lui que celle qui était prête. Ainsi, à l'heure du grand réveil, tous les fidèles qui s'étaient endormis sortiront de leur tombeau. Mais ils présumeraient témérairement de leur foi commune, ce que signifie l'huile des lampes, demande saint Augustin, n'est-ce pas la charité? Quelle sera la charité personnelle de chacun? Ceux-là seuls accompagneront l'époux qui auront donné la preuve de leur amour. Quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à soulever les montagnes, si je n'aime pas, je ne suis rien. Eussé-je distribué tous mes biens en aumône, me serais-je jeté au feu pour autrui, à moins de l'avoir fait par amour, tout cela ne me sert de rien. Le Seigneur ne me demandera pas d'avoir fait de grandes choses, mais de lui avoir montré beaucoup d'amour en lui étant fidèle dans les plus petites choses. Les petits devoirs de chaque jour, les menus sacrifices de la vie ordinaire, les petites vertus du foyer sont à ses yeux de grandes œuvres quand je les accomplis pour lui être agréable. Quelle autre façon aurais-je de lui prouver ma foi que de me fier à sa parole et d'accomplir tout ce qu'il me demande ? Je puis adhérer à la foi de l'Église. Mon amour est un don personnel. Les provisions d'huile des cinq vierges sages n'ont pu remédier à la pénurie des cinq étourdis. Celui qui n'a pas aimé pourra frapper éternellement à la porte de la salle du festin. La porte restera fermée. L'époux ne le connaît point. Seigneur, ne vous ai-je pas répété dans ma prière que je vous aimais par-dessus tout ? Oui, c'est bien la formule de l'acte de charité que l'on t'avait apprise. Plus que tout, m'as-tu au moins aimé plus que toi-même ? Celui qui aime commence par l'oubli de soi pour s'élever jusqu'au don de soi. On ne donne que dès l'instant où l'on se prive. Écoutez encore. Ce fut le dernier discours de Jésus au peuple. Le Fils de l'homme, revenu dans sa gloire, escorté de tous ses anges, siédera sur son trône de gloire et les hommes de toutes les nations seront rassemblés en sa présence. Mais il séparera les uns d'avec les autres, les uns à sa droite, les autres à sa gauche, comme dans le bercail, le berger sépare les brebis avec les boucs. Je reprends Confiance, Seigneur, car dans une bergerie, les brebis sont de beaucoup les plus nombreuses. Et n'étais-je pas de vos brebis, celles qui connaissent votre voix ? Mes brebis me connaissent, à droite celles qui m'ont reconnue, à gauche celles qui ne m'ont pas reconnue, car je ne vous ai pas quitté jusqu'à la consommation des siècles. J'étais avec vous tous les jours, et très spécialement à la personne de mes frères et de vos frères. Chaque fois que l'un des plus petits parmi mes frères s'est trouvé près de vous dans la détresse, dans la peine, et que vous lui avez donné ce que vous pouviez, une parole d'amitié, un appui, votre argent, votre temps, votre cœur, c'est à moi que vous l'avez donné. Ce que vous n'avez pas fait pour lui, par égoïsme ou par simple indifférence, c'est à moi que vous l'avez refusé. Je ne dis pas que vous l'avez rabroué, maltraité, frappé, pillé, non. Vous l'avez seulement négligé, mais chaque fois que vous l'avez oublié, c'est moi que vous n'avez pas aimé. Et ceux qui n'ont pas été bons pour moi, non plus qu'à rejoindre les anges rebelles, tandis que les bénis de mon Père prendront possession du royaume préparé pour eux depuis la fondation du monde. Toute la loi du chrétien se ramène à aimer. Dieu est amour et il a tant aimé les hommes qu'il a étreint notre humanité jusqu'à ne faire qu'un avec elle. Il nous a envoyé son Fils qui s'est fait homme comme nous et pour qu'à notre tour nous nous unissions à Dieu. Jésus nous a tous réunis dans son amour. Nous ne pouvons aimer Dieu que si nous aimons son Fils. Et nous ne pouvons pas aimer son Fils à moins d'aimer effectivement tous nos frères. Nous ne pouvons servir Dieu qu'en servant son Fils, et nous ne servons son Fils qu'en nous mettant au service de nos frères. C'est sur ce précepte récapitulatif de la charité que sera jugé le monde après que l'Évangile aura été prêché sur toute la terre. Le Père ne juge personne, mais il a remis au Fils le pouvoir de juger parce qu'il est fils d'homme. Jean, chapitre 5, verset 27. Jésus, image du Dieu invisible, antérieur à toute la création, l'aîné de tous les ressuscités, a remis le royaume à son Père. Il est à la fois le juge, l'objet du jugement et la récompense. Tous les hommes rachetés par son amour et unis entre eux par la charité fraternelle ne font plus qu'un avec lui. Le corps du Christ a atteint sa stature parfaite. Quant aux poissons impurs ramassés dans le filet du pêcheur, ils ont été rejetés dans la mer. Quant à l'ivraie mêlée au froment et qu'il n'était pas permis d'extirper du champ avant la moisson, les moissonneurs l'ont liée en gerbe pour la jeter au feu. L'Église ne serait pas mère si, face au terrible dilemme du salut ou de la perdition, elle ne nous invitait à l'espérance. C'est pourquoi dans la liturgie de ce jour, la lecture de l'Épître a ranimé notre confiance avant de nous appeler au jugement. Autant il serait dangereux de ne pas vouloir songer au sort des malheureux qui ont repoussé les avances divines, autant il serait fâcheux de nous y appesantir. Dieu n'a créé que le ciel, c'est le pécheur rebelle qui creuse lui-même son enfer. Pour une fois que vous méditez sur l'enfer, disait le père Faber, pensez 10 fois au beau ciel que notre Père céleste vous a préparé. Comme saint Paul, remercions avec joie le Père qui nous a rendus dignes d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, parce qu'il nous a arrachés à la puissance des ténèbres pour nous transférer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le Fils de son amour nous a rachetés par son sang, et grâce à lui, nos péchés nous ont été pardonnés. À vrai dire, nous n'avons pas à gagner le ciel, notre Sauveur l'a gagné pour nous. Actuellement, notre place y est prête, il nous appartient de ne pas la perdre. Pour cela, l'apôtre nous exhorte à mener une vie digne du Seigneur en pratiquant toute forme du bien, fort de la puissance de Dieu nous saurons demeurer patients et persévérants. Ces conseils sont en somme le commentaire de celui que Jésus nous donne sous la forme imagée qui lui est habituelle chaque fois qu'il nous parle de notre destinée future. « Soyez pareils, disait-il, à des gens qui attendent leur maître lorsqu'il doit rentrer d'un repas de noces à une heure tardive et indéterminée. Attendre fait partie de notre condition humaine. Tout homme attend autre chose que ce qu'il possède. Il regarde au-delà de l'heure présente. Il ne tient pas tout entier dans sa vie. Le chrétien, lui, n'attend pas quelque chose, il attend quelqu'un. « Ô Jésus, disait sainte Thérèse sur le point de quitter la terre, il est bien temps de nous voir. » Le chrétien attend son maître, le maître de sa vie. Non pas un maître distant, mais le maître qui travaille avec ses ouvriers, prenant pour lui la part la plus dure de l'ouvrage, le maître qui remet à chacun le salaire convenu. Ce salaire est le même pour tous. On en peut concevoir de plus élevé puisque c'est Dieu lui-même, Dieu tout en tous. Soyez comme des gens qui attendent le retour de leur maître. Lorsque vous attendez un ami en retard sur l'heure où il avait annoncé sa visite, vous prêtez l'oreille au plus léger bruit du dehors, espérant toujours entendre son pas. Vous avez beau vous occuper pour ne pas perdre votre temps, ce travail ne réussit pas à vous absorber. Vous êtes sans cesse distrait par l'image de celui qui va venir. Le chrétien qui attend son maître est lui aussi toujours attentif à la pensée du Sauveur au-dedans de lui. Il lui parle et il l'entend. C'est comme s'il était déjà arrivé. « Maranatha, venez, Seigneur Jésus !» Cette présence invisible du Sauveur encourage les chrétiens à remplir consciencieusement toutes ses tâches. Heureux le serviteur qu'à son retour le maître surprendra dans l'exercice des fonctions qu'il lui avait assignées. Vraiment, je vous le dis, il le préposera à tout son avoir. Le chrétien qui attend son maître obéit à ses commandements. Mieux encore, il s'efforce de prévenir ses désirs et il est attentionné. Voyant Jésus en chacun de ses frères, il se fait la providence de ceux qui l'entourent. Il est l'évangile vivant qui christianise le monde dans lequel il vit. Autour de lui, on rit même de lui, à moins qu'on ne le plaigne. Mais il est heureux de la peine qu'il prend pour donner satisfaction au maître quand il reviendra. Il ne s'inquiète pas du lendemain, car le maître peut revenir ce soir. Il faut qu'à son retour, il trouve la besogne bien faite et la maison ordonnée. Attendre, c'est aussi être patient. Le chrétien qui espère n'est pas à l'abri de l'adversité, mais celle-ci ne l'accable point. Il ne maudit pas la souffrance, il pardonne à ceux qui l'ont affligé. La légère épreuve d'un moment nous prépare, et bien au-delà de toute mesure, un trésor éternel de gloire. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17. Le chrétien qui attend le retour de son maître se redresse sous les coups de la mauvaise fortune. Son énergie se trempe dans les difficultés. S'attache à la croix sur laquelle il lui est possible de participer à l'expiation rédemptrice du calvaire. Ce n'est pas au coin du feu qu'il attend son maître, mais en plein air, exposé à tous les vents, dans la lutte contre les forces du péché, dans le sacrifice, là où le maître a souffert le premier et où il l'a chargé de continuer son œuvre. Le chrétien attend le retour de son maître dans la netteté et dans la joie. Votre ceinture aux reins, vos lampes allumées, disait Jésus. Le serviteur négligent qui ne pense plus au maître absent erre par la maison comme une mise débraillée. Si le maître frappe soudain au portail, le laissera-t-il dehors pour rectifier le désordre de ses vêtements? Le bon serviteur doit l'attendre dans une tenue correcte, sanglée dans sa ceinture de fête pour se porter d'un bond au-devant de lui. Qu'est-ce qu'un chrétien qui reculerait jusqu'à la dernière heure pour rétablir l'ordre dans sa vie? Un calcul de mercenaire alors que Dieu veut être aimé. Le chrétien est toujours prêt pour cette heure qu'il ignore. Au surplus, notre ignorance ne nous inquiète point. Nous savons que, guidés par son amour, celui qui connaît l'heure de notre départ, a choisi pour nous la meilleure. Et si nous le remercions de n'avoir pas frappé à notre porte à une époque où peut-être nous ne regrettions point nos péchés. Les reins saints, les lampes allumées. Le maître n'accepte pas de rentrer dans une maison obscure et triste. C'est par un cri de joie qu'il désire être accueilli, car en quittant ses serviteurs, il leur a dit expressément « Quand je vous reverrai, votre cœur sera rempli de joie, d'une joie que personne ne pourra vous ravir. » Jean, chapitre 26, verset 22. Les chrétiens qui gémissent sur leurs maux ou qui boudent leur temps ou qui prennent des airs de victime, comment aussi disgracieux feraient-ils aimer l'Évangile? Leur lumière doit briller aux yeux des hommes pour les amener à rendre gloire à Dieu. Le Père les a transférés des ténèbres dans le royaume du Fils, de son amour, et la joie ne rayonnerait pas sur leur visage? Ne nous rendra-t-on pas un jour la liturgie des contemporains de Saint Jérôme qui prenaient congé de leurs frères défunts au chant de l'Alléluia? Heureux les serviteurs que le Maître à son retour trouvera vigilants, occupés de lui, travaillant et peinant pour lui. Je vous le dis, il se scindra, les fera mettre à table et il passera de l'un à l'autre pour les servir. Sur quoi l'esprit fort critique notre mercantilisme? Vous faites le bien sur l'appât d'une récompense? Et l'esprit chagrin blâme notre audace. Nul n'est assuré de son salut. L'un et l'autre ont tort. Parce que nous désirons le ciel, serions-nous moins désintéressés que les autres qui se précipitent vers leur seule joie de la terre? Serions-nous moins nobles que les moralistes qui ne veulent d'autre récompense que celle d'avoir fait le bien, et c'en est déjà une? L'espérance du chrétien qui renonce aux joies du péché et qui refuse de se glorifier intérieurement de sa vertu n'est pas un calcul intéressé, il est une réponse d'amour. Le triomphe que nous espérons est moins le nôtre que celui de Jésus-Christ. Ce qui nous réjouit, c'est la pensée que le Fils de Dieu ne se sera pas incarné pour rien si nous avons répondu à son amour. Nous ne présumons pas pour autant de notre salut. Nous affirmons au contraire que le salut est un don gratuit de Dieu. Mais si nous ne sommes pas sûrs de nous, nous sommes certains de sa bonté. L'espérance du chrétien n'est pas un élan irraisonné. Il est un don de Dieu par lequel nous tâchons de répondre à ses prévenances. Dieu nous aime dans sa lumière et nous ne pouvons l'aimer que dans l'ombre. Il voit ce que nous ne voyons pas et nous lui donnons raison. Nous n'apercevons qu'un coin de l'envers de la tapisserie et nous déclarons cependant qu'elle est un chef-d'œuvre. Cette terre est le creuset où Dieu nous promet que nos tristesses se transformeront en félicité. Et quoique nous sentions seulement les brûlures de la flamme, nous acceptons de souffrir. Telle est notre confiance, qui ne comprenant à peu près rien de ses desseins, nous proclamons cependant que tout ce qu'il fait est bien fait. Seigneur, en toute humilité, mais avec la confiance de l'enfant qui ne peut rien cacher à son père de ce qu'il pense, nous osons dire que notre amour est sur le modèle du vôtre, l'amour qui donne avant d'avoir reçu. Notre ciel, nous le commençons ici-bas.